Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous accueillir ce soir pour le cours Biblos sur le passage de Romains 11, 25 à 12, 8. C'est aussi un plaisir d'accueillir Gilles Despins qui va vous présenter ce texte et nous nous réjouissons de l'entendre avec son enthousiasme. Je vous propose de prier. Notre Dieu, notre Père, on veut te dire merci pour cette opportunité que nous avons de pouvoir suivre ce cours Biblos sur les Romains. On veut te dire merci et te remettre Gilles dans sa présentation pour que tu le diriges par ton esprit. On veut te remercier aussi pour son ministère. On veut se remettre aussi chacun en tant qu'auditeur, que tu nous aides à comprendre avec l'aide de ton esprit ce texte si riche, et que nous ayons vraiment envie de le mettre en pratique. Notre Dieu, nous t'adressons cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci beaucoup, Jean-Jacques, et bonsoir à tous. C'est vraiment un plaisir de pouvoir continuer cette section des Romains. On termine ce soir le chapitre 11 et puis nous allons débuter le chapitre 12 qui nous fait entrer dans la section qu'on peut appeler très pratique de l'épître de Paul aux Romains. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de partie pratique avant, mais que simplement que cette partie-là, elle est vraiment tout spécialement consacré à l'aspect pratique de l'Évangile. Simplement un bref rappel avant d'entrer dans la dernière portion du chapitre 11, que ce chapitre-là, on avait vu ensemble qu'il servait en fait à répondre à la question posée par Paul lui-même au tout début de ce chapitre-là, chapitre 11, verset 1, Dieu a-t-il rejeté son peuple en parlant bien entendu du peuple d'Israël, c'est-à-dire tous les Juifs qui font partie du peuple de l'alliance ou des alliances avec Yahweh. Et l'apôtre Paul avait déjà répondu très clairement au début, avec une forme de négation très intense en grec. Donc, on l'avait souligné lorsqu'il disait, mais pas du tout, ou qu'ainsi n'advienne, ou loin de là, ou que cela n'arrive jamais. Donc, ce sont en fait, des réponses qui sont très, très intenses pour dire un non absolu. Mais l'apôtre Paul s'était mis comme défi d'aller plus loin dans sa réponse. Avec le chapitre 11, il donne six arguments qui prouvent que Dieu n'a pas rejeté le peuple d'Israël, que Dieu n'a pas remplacé Israël par l'Église ou que l'Église n'est pas la continuité d'Israël. Il y a un avenir pour l'Israël ethnique. Et bien entendu, quand on parle ainsi, on veut dire les croyants juifs qui font partie du peuple d'Israël, des 12 tribus d'Israël. Donc, le Seigneur, de par ses promesses, de par ses alliances, de par qui il est, eh bien, j'oserais dire, se voit dans l'obligation de donner un avenir pour Israël, parce que, en fait, cet avenir-là ne repose pas sur la fidélité du peuple ou sur la bonté ou la gentillesse du peuple juif, mais simplement sur la grandeur, la bonté, la miséricorde et la fidélité d'un Dieu qui tient ses promesses, qui accomplit toutes ses alliances. Et donc, on arrive, pour ce qui nous concerne, au cinquième argument. Nous en avons déjà vu quatre et vous pourrez retourner dans le canevas de notes pour voir chacun de ces arguments-là et quelle section de texte elles occupent ou ils occupent plutôt. Eh bien, là maintenant, nous sommes à l'argument numéro 5 qui couvre les versets 25 à 32 qui parle du mystère de l'endurcissement partiel d'Israël. Et donc, c'est un argument qui tend à démontrer que Dieu n'a pas rejeté son peuple Israël, mais qu'il a un avenir pour ce peuple-là, puisque l'endurcissement partiel d'Israël était un mystère. Nous allons définir ce que c'est ensemble, mais je vous propose de lire d'abord cette section-là qui couvre le cinquième argument. Ce sont les versets 25 à 32, inclusivement du chapitre 11. Et j'utilise la Bible Darby, édition de Rolle, pour faire la lecture. Donc, verset 25, j'ai la Bible dans mes mains, là, c'est pour ça que je baisse la tête et je ne vous regarde plus maintenant. Je vous encourage à faire de même, hein. Prenez vos Bibles dans vos mains et puis lisez en même temps que moi dans votre cœur. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère-ci, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob l'impiété. Et c'est là l'alliance de ma part pour eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont bien-aimés à cause des pères. Car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Car comme vous aussi, vous avez été autrefois désobéissants à Dieu et que maintenant vous êtes devenus des objets de miséricorde par la désobéissance de ceux-ci, de même ceux-ci aussi ont été maintenant désobéissants à votre miséricorde afin qu'eux aussi deviennent des objets de miséricorde. Car Dieu a renfermé tous, Juifs et nations, dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. C'est un texte assez compliqué, n'est-ce pas? On voit, c'est d'un côté la désobéissance, d'un côté la miséricorde, et puis voilà, par la désobéissance de l'un, Dieu fait miséricorde à l'autre, et vice-versa, et ainsi de suite. Et finalement, tous les hommes sont sous le contrôle souverain de Dieu, que ce soit dans la désobéissance ou pour être l'objet de sa miséricorde. C'est un peu l'argument de Paul qu'on va étayer maintenant en regardant ce qu'il nous a donné dans ce passage-là. Donc au verset 25, et je vais le relire, l'apôtre Paul nous introduit à un mystère. Il nous dit ceci: Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère-ci, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Mais d'abord, on voit l'apôtre Paul utiliser une figure de style qu'on appelle une litote. C'est un petit peu compliqué à expliquer une litote, mais c'est quand on fait une affirmation en utilisant la négation du contraire de cette affirmation-là. Comme dans ce cas-ci, l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous ignoriez, mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est, je veux que vous sachiez. Donc, vous voyez, c'est comme le contraire, mais on le présente dans une forme négative. Pourquoi on fait comme ça? Parce que c'est ce que Paul veut, c'est qu'il sache quelque chose. Eh bien, parce qu'ils ne doivent absolument pas rester dans l'ignorance à propos de ce que Dieu fait dans ses plans mystérieux, quelque part. Et ce sont des mystères qu'il nous révèle dans le Nouveau Testament. Mais c'est important que l'on comprenne bien ce que Dieu fait. Donc, c'est pour cela que Paul, au lieu d'utiliser une forme, disons, positive, d'une déclaration positive, il va utiliser la forme négative, dans le sens d'utiliser ne pas. Donc, je ne veux pas que vous ignoriez parce que c'est trop important de le savoir. Et c'est une façon, d'insister d'un point de vue littéraire. Parce que c'est important que les croyants comprennent très bien ce que Dieu fait avec Israël. Pourquoi? Parce que vous savez, je me suis souvent demandé à quoi sert vraiment toute cette argumentation si longue. Le chapitre 11 a prouvé que Dieu n'a pas rejeté Israël, qu'il y a un avenir pour Israël, que ce peuple-là n'a pas été rejeté par Yahweh. Bien, moi, je crois sincèrement que c'est un peu comme pour étendre les affirmations que Paul a faites en rapport avec notre propre salut, nous les croyants de l'Église, qu'on soit juifs ou non juifs. Dans le chapitre 8, à la fin du chapitre 8 des Romains, il a été dit très clairement que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, que nous sommes entre ses mains, que nous qui avons été appelés, nous avons aussi été sanctifiés et même, on voit même à la forme passée que nous sommes déjà glorifiés en Christ. Et donc, ce que Paul faisait à la fin du chapitre 8, c'est une déclaration d'assurance du salut de notre propre élection. Eh bien, imaginez, si on n'arrive pas à bien comprendre les voies de Dieu par rapport à Israël, qui, Israël, on le sait, est le peuple élu de Dieu, Eh bien, si Israël est rejeté par Dieu, ou si Israël a perdu définitivement tous ses privilèges d'appartenance à Dieu, qu'est-ce qui peut vraiment nous assurer que ce ne sera pas le cas aussi pour nous? Parce que, oui, la parole de Dieu nous dit dans Romains 8 qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de Dieu, mais l'Ancien Testament disait la même chose à Israël aussi. Alors, comment on peut concilier cette idée qu'on a une pleine assurance qu'on ne peut pas, tu vois, perdre cette élection et tous les privilèges qui s'y rattachent, si Israël l'a perdu, eh bien, on n'aurait aucune assurance. C'est pour cela que je crois que vraiment Paul considérait comme important que les chrétiens de Rome à son époque et jusque nous aujourd'hui, on puisse vraiment comprendre, réaliser que notre élection est certaine. Toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir. Et c'est le cas pour Israël aussi. Et c'est là que on comprend mieux pourquoi que s'ils ont été infidèles, ça n'annulera pas la fidélité de Dieu. Que si Israël a désobéi à la parole de Dieu demeure. Elle n'est pas annulée, elle n'est pas anéantie ou supprimée par l'incrédulité d'Israël. Moi, je crois que le chapitre 11 est là pour nous rassurer, nous, les croyants de l'Église, que notre élection, notre protection, l'assurance de notre salut est certaine parce que Dieu tient toujours ses promesses et c'est le cas pour Israël. Malgré tout, malgré qu'ils aient rejeté le Messie, Dieu a gardé un reste auquel il se révélera pour accomplir toutes ses alliances et ses promesses de l'Ancien Testament qui concernent d'abord Israël. Voilà. Ça, je tenais vraiment à faire cette introduction puis à le rappeler parce que c'est vrai qu'on est dans un très long chapitre, on argumente par-dessus arguments, etc. Mais vous allez le voir d'ailleurs dans ce qui s'en vient, dans les versets qui s'en viennent, que pour Paul, c'était super important qu'on comprenne quelque chose. Les plans de Dieu et l'appel de Dieu sont irrévocables. Peu importe ce que l'homme fait, l'homme ne déjoue jamais Dieu, ne va jamais supprimer quoi que ce soit des plans de Dieu. Ah, l'homme demeure responsable et fait face à des conséquences terribles, mais le Seigneur garde sa parole et tient ses promesses. Donc, en réalité, tout ce qui s'est passé avec le rejet de Jésus par Israël est entré dans le cadre des plans souverains de Dieu qui était parfaitement au contrôle de toutes choses. Je ne sais pas comment l'apôtre Pierre a pu saisir ça, parce que dans les évangiles, on voit Pierre et les autres apôtres d'ailleurs qui ne comprennent même pas que Jésus doit aller à la croix et souffrir. Hein? Ça n'entre pas dans leur esprit, ils ne saisissent pas cela. Mais voilà, en fait, on a la réponse avec la venue du Saint-Esprit. Là, Pierre, son esprit est vraiment éclairé, il comprend, saisit des choses, comme Jésus l'avait promis d'ailleurs dans la chambre haute, où là, il comprendrait beaucoup mieux les choses. Et on voit quand Pierre prêche l'Évangile, qu'il souligne ce double aspect des plans de Dieu, la responsabilité humaine dans le rejet de Jésus et la souveraineté de Dieu dans l'accomplissement d'un plan qu'il avait déjà établi avant la fondation du monde. Donc, il y a quelque chose dans tout cela qui échappait à Israël et qui ouais, n'était pas révélé dans l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul appelle cela constamment dans ses épîtres un mystère. Donc, le mystère dont il parle maintenant, il va le définir. Mais j'aimerais d'abord vous donner une définition brève de ce que c'est qu'un mystère dans le Nouveau Testament, parce que c'est uniquement dans le Nouveau Testament qu'on trouve cette notion. Et un mystère, c'est une partie du plan de Dieu que Dieu a tenu cachée, en particulier dans la période de l'Ancien Testament, mais qu'il a révélé au moment voulu et en particulier par l'enseignement des apôtres dans les Épîtres. Donc un mystère, c'est une partie du plan de Dieu qu'il a tenu caché à l'époque de l'Ancien Testament, mais qu'il a révélé dans l'Église par les écrits apostoliques. Et ce mystère-là, ben, il a plusieurs aspects. Donc on pourrait dire il y a plusieurs mystères, et c'est le cas aussi dans les Épîtres. Mais c'est toujours la même définition, mais bien entendu, il y a différents éléments de ces choses qui ont été tenues cachées à travers les siècles, qui n'étaient pas pour être révélées avant leur propre temps. Et ici, dans le passage, c'est la mise à l'écart temporaire d'Israël pendant la période de l'Église, une période qui est marquée par l'endurcissement d'Israël. D'ailleurs, on lit dans la version Darby, un endurcissement partiel est arrivé à Israël. Je pense sincèrement que la Bible Second fait fausse route en attribuant cet adjectif partiel à Israël plutôt qu'au mot endurcissement. Ainsi, par exemple, et j'ai juste à côté dans mon écran, j'ai la version Second NEG, c'est pour ça que je tourne la tête un peu. Je lis ceci dans la version Second NEG, nouvelle édition de Genève. Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez pas comme sage. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. C'est très différent, ça. Donc, le côté partiel ou l'aspect partiel dans la seconde est attribué à Israël même plutôt qu'à l'endurcissement. Et à mon sens, c'est faire fausse route. Et je pense que plutôt que Darby a raison, comme beaucoup d'autres Bibles aussi, d'ailleurs, l'ont bien traduit, que l'expression apomeros, il me semble, en grec de mémoire, ce qui signifie en partie ou partiellement ou partiel, eh bien, ça modifie le mot endurcissement, dans le sens où c'est temporaire. Ce n'est pas quelque chose qui va durer tout le temps, mais tout le temps. On parle vraiment d'un endurcissement qui est une. Comment je dirais, une condition d'insensibilité, de résistance à Dieu, c'est ce qu'on parle quand on parle d'endurcissement, c'est d'avoir un esprit fermé. C'est un jugement de Dieu sur Israël. On le voit très bien dans les évangiles. Quand ils rejettent le Messie, ah, ils tombent sous le jugement d'Ésaïe afin que leurs yeux ne voient plus, leurs oreilles n'entendent plus. On parle d'un endurcissement qui les amène à cet état ou condition d'insensibilité, de résistance, d'avoir cet esprit fermé, mais tout cela pendant une période limitée et temporaire. Et vous comprenez que ça ne s'applique pas de façon généralisée à tous les Juifs, puisque dans l'Église, il y a des Juifs qui vont se convertir. Mais le peuple d'Israël, dans l'ensemble, se voit sous le jugement de Dieu, ce jugement d'endurcissement partiel, jusqu'à ce que, selon le plan de Dieu souverain pour la construction de l'Église, on voit jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Et le mot plénitude n'a pas toujours le même sens. Dans le Nouveau Testament, ici, il parle de totalité. Donc, jusqu'à ce que la totalité des croyants qui proviennent de toutes les nations, incluant les Juifs, soit entrée. D'ailleurs, tu vois, le mot nation, ici, il ne veut pas dire tous les peuples hormis Israël, mais il inclut dans ce cas-ci Israël, parce que dans l'Église, il y a des Juifs et il y a des non-Juifs. Mais ceux qui, parmi le peuple juif, entrent dans l'Église, bien, ils deviennent comme nous des membres du corps de Christ et ne sont plus rattachés aux promesses d'alliance adressées à la nation d'Israël. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul, ici, il nous dit dans ce premier verset de la section 25 à 32 que c'est un mystère qu'on ne savait pas, qu'on ne voyait pas venir dans l'Ancien Testament, mais qui nous est révélé maintenant dans le Nouveau Testament. Israël, dans l'ensemble, est sous le jugement de Dieu d'un endurcissement qui est partiel, temporaire et limité, mais qui un jour, bien entendu, sera ôté quand leurs yeux verront. Donc, c'est évident qu'on parle d'un avenir pour Israël dans ce verset-là, ce que Paul confirme d'ailleurs au verset suivant, le verset 26, et ainsi, donc quand la totalité des nations, incluant les Juifs qui se convertissent, sera entrée dans l'Église, eh bien, à la fin de la période de l'Église, tout Israël sera sauvé. Bien entendu que vous comprenez que l'apôtre Paul n'est pas en train de nous dresser un schéma détaillé à 100% de tous les événements de l'eschatologie à venir, c'est-à-dire la fin de l'Église, son enlèvement, tribunal de Christ, la 70e semaine de Daniel qui est à venir avec tous ses jugements. Mais l'apôtre Paul passe directement de la fin de l'Église à l'accomplissement des promesses de Dieu envers Israël ethnique, et il nous dit ainsi, quand l'Église se sera terminée, quand on passera maintenant à la suite du programme de Dieu dans l'histoire de la rédemption, eh bien, tout Israël sera sauvé. Déjà, on peut souligner que tout Israël, vous comprenez, ça ne veut pas dire tous les Juifs sans exception. Qui sont sauvés? Les croyants. Ça a toujours été ainsi. Même dans le temps de l'Ancien Testament, quand on parle du peuple de Dieu, qui est le peuple d'Israël, les 12 tribus, ceux qui sont vraiment le peuple de Dieu, ce sont ceux qui sont croyants. Tous les autres qui ne sont pas croyants, même s'ils sont physiquement ou par descendance dans le peuple d'Israël, ils ne font pas partie des enfants de Dieu. Donc, on peut établir cela très simplement et clairement, que dans le fond, dans l'Écriture, ceux qui appartiennent à Dieu, que ce soit dans l'Église ou parmi le peuple d'Israël, il faut qu'ils soient croyants. Tu vois, ça ne repose pas sur une descendance naturelle ou sur le fait simplement d'être juif ou alors de faire partie d'une église locale quelque part. Dans nos églises, il y a certainement beaucoup de gens probablement qui ne sont pas sauvés, qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qu'ils viennent peut-être pour des principes moraux, religieux, même eux-mêmes ne sont pas au clair par rapport à leurs propres conditions. C'était vrai en Israël, il y avait aussi des incrédules flagrants parmi le peuple. D'ailleurs, quand Jésus est venu, hein, on pensait vraiment qu'être né juif était suffisant pour être admis dans le royaume de Dieu et avoir part à toutes les bénédictions des alliances de Yahweh. Quelle erreur de penser ainsi! Donc, chaque fois qu'on lit des textes qui nous parlent de ceux qui sont sauvés, ce sont les croyants uniquement, bien entendu. Et ici, ça ne fait pas exception. Tout Israël sera sauvé, c'est-à-dire tous les Juifs qui vont croire en Jésus quand il reviendra pour délivrer Israël, en fait, et établir son royaume messianique, eh bien, ils seront sauvés. Paul va s'appuyer sur une citation, comme il le fait beaucoup dans la section qui nous occupe d'ailleurs, une citation d'Ésaïe 59, les versets 20 et 21, qui nous dit: Celui qui délivre viendra de Sion, ou le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob l'impiété. Celui qui délivre, celui qui vient au secours d'une personne qui est en danger. C'est intéressant parce que on a déjà le verbe sauver dans ce verset, mais là, on prend un mot différent pour donner un accent différent aussi à la manière dont Dieu va opérer la rédemption d'Israël croyant à la fin de la période de la 70e semaine de Daniel, qu'on appelle très souvent la tribulation ou la grande tribulation. Eh bien là, Jésus délivre. Et ce verbe-là parle vraiment de venir au secours d'une personne qui est en danger. Maintenant, pourquoi dire de Sion? Eh bien, au sens littéral, Sion, c'est le nom d'une colline qui est tout près de Jérusalem, tout juste à côté. Et parfois, dans les Écritures, Sion sert de nom poétique pour désigner la ville de Jérusalem elle-même ou même le peuple de Dieu, c'est-à-dire Israël. Mais ici, le sens est plutôt le ciel. Sion est parfois utilisé dans l'Épître aux Hébreux, d'ailleurs, pour parler du ciel. Donc, c'est une autre façon poétique, mais liée à l'histoire d'Israël, de dire, voici, le Seigneur Jésus vient du ciel, après tout. Et qu'est-ce qu'il va venir faire? Détourner Jacob de l'impiété ou l'impiété loin de Jacob, si on était très littéral. Et là, on parle vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe, là. Quand on voit détourner, on parle de conversion. C'est parce qu'il se passe une conversion et donc les péchés sont effacés, sont enlevés, sont ôtés. Et j'ai trouvé remarquable cette citation qui parle de Jacob plutôt que de dire Israël. C'est la même chose. Bien entendu, Jacob, c'est le père des 12 tribus d'Israël. Mais Jacob rappelle le personnage lui-même dans toute son humanité. Tandis qu'Israël, ben, ça rappelle plus le rapport avec Yahweh, le rapport avec Dieu, le Dieu des alliances. Mais Jacob, ça rappelle l'être humain, là, le trompeur, le rusé, etc. Quelle bonté de Dieu de venir auprès d'un peuple pécheur pour pardonner les péchés et rassembler maintenant Israël dans son alliance promise par Jérémie il y a tellement longtemps. Et là, voilà, elle est résumée, cette alliance-là, en un petit bout de phrase au verset 27. Et c'est là l'alliance de ma part pour eux lorsque j'ôterai leur péché. C'est la nouvelle alliance dont il est fait allusion ici, à laquelle il est fait allusion, dont il est question, celle promise par Jérémie 31, les versets 31 à 34, où Dieu promet à Israël, bien entendu, tous les croyants, ceux qui vont croire, de pardonner leur péché, d'ôter les péchés, de mettre fin à ces péchés-là. Et donc, c'est vraiment un synonyme d'être pardonné. Voilà, Dieu a un avenir pour l'Israël ethnique qui se convertira à Jésus-Christ à la fin de la période de la 70e semaine de Daniel. Et ainsi, Dieu va accomplir toutes ses promesses à l'égard d'Israël dans la nouvelle alliance de Jérémie. Voilà comment Paul va nous résumer ses plans de rédemption extraordinaires au verset 28 en nous disant, selon l'Évangile, et là on doit comprendre l'Évangile, c'est-à-dire selon ce qu'on vit présentement dans l'Église, eh bien, ils sont des ennemis à cause de vous. Là, on parle de à cause de vous, tous les gens des nations, mais on peut inclure aussi les Juifs croyants là-dedans. Donc, Israël, en tant que nation, devient ennemi pendant la période de l'Église. C'est ce que signifient en fait les mots selon l'Évangile. Pour que l'Évangile puisse atteindre toutes les nations du monde, incluant aussi les Juifs, bien sûr, ben, ils sont dans une condition d'ennemi, en position d'hostilité. Parce que voilà, Dieu voulait faire miséricorde à tous ceux qui sont des autres nations. Mais, et là il y a un mais, oui, c'est vrai que Israël est mis de côté par Dieu pendant la période de l'Église en tant que nation, mais selon l'élection. Oh, mais regardez le statut. Oh, ils ne sont pas des ennemis selon l'élection. Ben, c'est toujours les mêmes personnes, hein? En fait, toujours le même peuple d'Israël. Ils sont des bien-aimés à cause des pères. Que c'est beau cette phrase-là. Ça nous rappelle les promesses de Dieu dans l'alliance abrahamique. Quand on parle des pères, on parle bien entendu des ancêtres et des patriarches juifs, et en particulier Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est avec ces pères-là que Dieu, d'une façon particulière, réitère constamment l'alliance abrahamique sur laquelle reposent toutes les autres promesses. Il ne peut même pas y avoir une nouvelle alliance telle que Jérémie le promet s'il n'y a pas d'abord l'alliance abrahamique, qui prévoyait de grandes bénédictions pour les nations aussi, mais sans qu'on ait tout le dévoilement du mystère entourant la formation de l'Église. Donc, voyez ce que Paul dit dans ce verset-là. Oui, pendant la période de l'Église, à cause de l'Évangile, à cause de vous, ils sont comme sous le jugement, donc vus comme des ennemis. Mais dans les plans souverains de Dieu, dans l'élection, attention, hein, ils sont des bien-aimés. Et donc, par les promesses que Dieu a faites à leur père, Israël va être établi. Que c'est clair, que c'est beau quand on porte attention au texte. Et Paul va justifier cette pensée en disant car, dans le verset 29, qui est très explicatif, car les dons gracieux de Dieu, c'est-à-dire les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir, ou on aurait pu dire sans regret. Et quand on parle de dons gracieux, de quoi on parle ici? Remarquez, les dons de grâce, les dons au pluriel, ce sont les alliances de Yahweh avec Israël. Et ces alliances-là sont irrévocables. Aucune ne tombe. Il n'y a qu'une alliance, en fait, qui tombe dans un sens, puisqu'elle est accomplie par Christ à la croix. C'est l'alliance mosaïque. Mais les quatre autres alliances faites avec Israël sont des alliances irrévocables. Et Dieu va les accomplir avec son peuple d'Israël. Donc, ces alliances-là sont sans repentir ou sans regret. Et l'appel de Dieu, le mot appel, en général, il est synonyme d'élection dans l'Écriture. Il est constamment lié, ce mot-là, appel, hein, selon l'appel dont vous avez été appelé. Ça, c'est très, très, comment je dirais, c'est pour insister, hein, l'appel, ce sont les bénédictions que Dieu a en réserve pour ceux qu'il a choisis. Donc, le terme appel est presque synonyme d'élection, de choix souverain de Dieu et englobe tout ce que Dieu a promis pour son peuple. Eh bien, les alliances de Dieu et les promesses de Dieu, l'appel de Dieu sont sans repentir, sans regret. C'est une manière, c'est un anthropomorphisme en fait, c'est une forme humaine de dire que tout ce que Dieu a promis, il va l'accomplir sans rien changer. Quand on se repent, quand on regrette, on change les choses. On fait les choses différemment. En fait, le repentir est un retournement complet de situation. C'est une définition de la repentance. Mais Dieu, ses alliances, son appel, ben, il ne changera pas d'idée. Il ne retournera pas la situation. Il ne va pas abandonner ses promesses. Donc, l'apôtre Paul est en train de raffermir ici cette élection de Dieu dans le cœur de ses lecteurs. Et puis, si c'est vrai pour Israël, c'est vrai pour nous aussi. Ce qui serait aussi vrai dans le cas contraire, hein. Si Israël pouvait perdre son élection, qu'est-ce qui nous aurait garanti qu'on ne pourrait jamais perdre notre élection? Alors, le point de Paul, c'est de tout de suite établir des bases solides d'assurance. Voyez-vous où on s'en vient avec le chapitre 11, en fait? On est en train de mettre des bases solides pour la partie pratique, dans le sens où on dit, soyez certains de votre salut, soyez certains que Dieu a un plan de rédemption parfait, qu'il va l'accomplir. Et maintenant, là, vous entrez dans votre partie de responsabilité, les deux pieds solidement ancrés dans l'espérance que vous avez en Christ. Je pense que c'est ça, en fait, le chapitre 11, ce qu'il nous dit. Dans les versets 30, et 31, on voit à quel point Dieu est au contrôle de tout. Et le verset 32, là, est une conclusion hallucinante, très graphique. Je vais essayer de mettre ça, de peindre le portrait de ce graphisme-là qu'on a dans le texte original. Verset 30 et 31 dit ceci. Car tout comme, c'est un petit peu plus littéral, tout comme autrefois, vous avez été désobéissant à Dieu. Mais maintenant, il vous a été fait miséricorde par la désobéissance de ceux-ci, ainsi aussi, ceux-ci ont été maintenant désobéissants pour votre miséricorde, afin qu'à eux aussi, il soit fait miséricorde. Là, c'est comme le Seigneur est en train de nous dire que la désobéissance et sa miséricorde, tout cela est encadré par ses plans souverains. Eux, ils deviennent désobéissants pour que vous, il vous soit fait miséricorde, pour qu'un jour, il leur soit fait aussi miséricorde à eux qui avaient été désobéissants. C'est exactement ce que Paul est en train de nous dire là, parce que Dieu est pleinement au contrôle, Dieu est souverain. Mais ce que ça suggère, en fait, pas suggère, c'est pas assez fort, mais ce que ça dit clairement, ces deux versets-là, c'est que Dieu a un plan d'avenir pour Israël, et ce plan d'avenir s'appelle miséricorde. Je ferai miséricorde à mon peuple, à ceux qui croiront dans le peuple d'Israël, d'une façon particulière à ce peuple ethnique que j'ai choisi. Donc, maintenant, dans l'Église, on bénéficie de la miséricorde de Dieu parce qu'Israël, il y a 2000 ans, a rejeté son Messie, mais un jour, cette miséricorde va atteindre le peuple d'Israël. Pourquoi? Ça, c'est le verset 32. Et je vais terminer cette section-là avant de prendre une petite pause pour des questions, car Dieu les a tous rassemblés derrière des portes fermées dans la désobéissance. Ça, c'est... je ne peux pas dire c'est littéralement ce que dit le texte, mais c'est une façon de le traduire qui est très graphique, parce que la version Darby dit en fait, car Dieu a renfermé tous, Juifs et nations, dans la désobéissance, pour leur faire miséricorde à tous. Comment vous comprenez renfermé? Moi, quand j'étais gamin, hein, j'étais un petit peu agité. C'est dur à croire, là. Mais j'étais un enfant hyperactif. Puis, parfois, j'ai été renfermé dans la chambre pour me calmer. Puis, je peux vous dire que dans mon esprit à moi, quand je lis Dieu renferme, dans mon esprit, je vois une porte qui se ferme et là, tu es pris à l'intérieur. Et je crois que c'est vraiment le sens aussi du verbe dans le texte original. Dans une traduction littérale que j'ai faite, j'ai traduit comme ça. Dieu les a tous rassemblés derrière des portes fermées. Parce qu'ils sont mis là, à huis clos, là. Ils sont mis dans un espace, tout le monde, là, ça c'est tout le monde entier, est derrière des portes fermées. C'est juste pour que, d'une manière graphique, on réalise qu'il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu, là. Tout le monde est mis là-dedans, puis il ferme la porte. C'est lui qui est au contrôle. C'est le Seigneur qui est au contrôle. Et dans quoi, dans quel type de pièce ou de salon ou de chambre on est derrière une porte fermée? Bien, dans la désobéissance. D'ailleurs, le verbe renfermer signifie littéralement confiner des gens ensemble ou les emprisonner ensemble. Et le but de tout ça, c'est de montrer que Dieu était parfaitement au contrôle dans la désobéissance d'Israël envers leur Messie. Parce que Dieu voulait faire miséricorde à tout le monde. Et il a utilisé le rejet de la messianité de Jésus par Israël pour faire grâce à tous ceux qui, dans l'Église, croiraient en Jésus. Puis un jour, Israël, qui est dans la même pièce quelque part, va aussi bénéficier des bénédictions de Dieu dans la restauration de toutes choses. Le verset 32 est vraiment une manière graphique puissante pour nous dire, on est totalement sous le contrôle souverain de Dieu. Il n'y a rien, rien, rien qui lui échappe. Et c'est rassurant, ça, parce que ton avenir, mon avenir, est entre les mains d'un Dieu qui met tout, toute chose, tout le monde, tout ce qui se passe dans une chambre, ferme la porte, c'est sous son contrôle. C'est lui qui garde les choses pour qu'elles arrivent selon son plan souverain. C'est pas pour rien que Paul va s'exprimer dans une profonde doxologie, mais avant, une petite pause.
Alors merci beaucoup Gilles pour ton exposé. Avant de commencer les questions de ce soir, on va reprendre une question qu'on avait eue il y a 2 semaines du coup sur le verset 24. C'était l'olivier franc, c'est vraiment Israël ou l'arbre des promesses divines, l'alliance de Dieu?
Oui. Il y a un lien direct entre l'olivier et Israël. Et parfois, on simplifie en disant l'olivier franc, c'est Israël. C'est juste, mais pour être peut-être plus précis, il me semble que l'olivier lui-même parle de ce qui est à la base des bénédictions, des branches qui se rattachent à cet olivier-là, c'est-à-dire les promesses de Dieu dans ses alliances avec Israël. Donc, pour être plus précis, en parlant de l'olivier franc, on va plutôt parler des promesses de Dieu dans les alliances qu'on a parlé, les alliances inconditionnelles et irrévocables, et qui se rattachent au peuple d'Israël, ceux qui sont croyants, bien entendu. Donc, oui, on peut lier les deux de cette façon-là. Mais on peut être certain que c'est en lien avec les promesses de Yahweh pour Israël, la question de l'olivier franc.
Super, merci beaucoup. Alors la première question de ce soir, c'est comment Dieu, qui est l'auteur de l'aveuglement et de l'endurcissement d'Israël, peut-il les condamner?
Ça, c'est un mystère. Nous, on a beaucoup de peine à comprendre comment Dieu, qui est parfaitement souverain, qui a rien qui échappe à son contrôle, tout est encadré par ses plans souverains, incluant le péché des hommes aussi, bien que Dieu soit pas du tout l'auteur du péché. Pour nous, c'est incompréhensible parce que, d'une part, l'homme demeure pleinement responsable de son propre péché, de son endurcissement. Joël Brun avait vraiment fait un exposé remarquable en parlant, par exemple, de l'exemple de l'endurcissement de Pharaon pour dire, voilà, il s'est endurci lui-même d'abord et ensuite Dieu intervient pour endurcir davantage Pharaon. C'est vrai, ça explique beaucoup de choses, mais ça explique pas tout. Mais je crois sincèrement que c'est quelque chose qu'on n'arrivera jamais à pleinement saisir, mais qu'on doit croire. C'est-à-dire, d'une part, l'homme est pleinement responsable de son incrédulité, son endurcissement, et d'autre part, Dieu est parfaitement au contrôle et même utilise toutes ces choses pour sa propre gloire et pour l'accomplissement de sa rédemption. Ainsi, l'apôtre Paul, dans les Romains 6, avait parlé du péché en disant que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, est-ce qu'il faut en conclure qu'on doit pécher pour faire abonder la grâce? Bien sûr que non, mais ça montrait simplement que même d'une situation désespérée comme le péché qui détruit tout, la grâce de Dieu va au-delà et est plus grande. Donc, C'est très difficile pour nous de concilier les deux. Moi, je prône vraiment sincèrement l'idée de croire aux deux, c'est-à-dire l'homme est responsable, Dieu souverain, mais sans essayer de comprendre et d'imbriquer un dans l'autre. Impossible. D'ailleurs, la doxologie, Mathias, c'est exactement ce qu'elle va exprimer. Que c'est profond, que c'est insondable, que c'est impossible à comprendre.
Ce sera des mystères qu'on découvrira au ciel, un peu en analogie entre ceux qui étaient cachés dans l'Ancien Testament et qui ont été révélés dans le Nouveau. Aujourd'hui, il y en a qu'on a encore et puis qui nous seront révélés plus tard.
C'est ce qu'on s'imagine, en tout cas.
Alors, une autre question. Merci, frère Gilles. Verset 26. Tout Israël sera sauvé. Paul veut-il dire que tous les Juifs qui resteront en vie après la grande tribulation seront sauvés pour entrer dans le millénium, ou bien tout Israël fera partie de l'Église?
Non, on parle spécifiquement d'Israël pendant la période de la Grande Tribulation ou de la 70e semaine d'Israël, et c'est bien entendu uniquement les Juifs croyants. Donc, c'est pas tout Israël sans tenir compte de l'aspect de la foi et la repentance de l'homme parmi les Juifs, mais vraiment de ceux qui sont croyants.
Et merci. Une autre question. Trouve-t-on dans l'Ancien Testament un argument qui rejoint celui de Jésus dans Jean 8 concernant le fait que tous les descendants d'Abraham ne sont pas des fils de Dieu, ne sont pas sauvés?
Bien, je pense qu'à travers tout l'Ancien Testament, on a déjà suffisamment de pistes à suivre et d'indices pour montrer que c'est la foi qui fait toute une différence d'abord. C'est la foi qui amène au salut. Donc, parmi le peuple juif, même si l'Ancien Testament, puis ça, retenons cela parce que c'est un élément essentiel, l'Ancien Testament n'est pas sotériologique dans le sens où il ne met pas l'accent sur le salut de l'individu. L'Ancien Testament n'est pas là pour nous dire qui était sauvé, qui ne l'était pas. Mais en lisant l'Ancien Testament, on voit clairement que ceux qui vraiment bénéficient du salut de Dieu sont les croyants et en particulier ceux qui sont marqués ou identifiés ou caractérisés par la repentance et la foi. Mais c'est très peu abordé dans l'Ancien Testament parce que ce n'est pas le sujet principal de l'Ancien Testament, à savoir le salut de l'individu. C'est une vérité qui nous est déclarée plus clairement. Alors, ce que Jésus fait dans Jean 8, ce que Paul fait dans Galates aussi, c'est qu'il établit clairement que ce n'est pas simplement d'être un descendant naturel d'Abraham qui fait de nous un enfant de Dieu, mais plutôt de croire en qui est Jésus, en fait.
Ok, merci beaucoup. Il y a une dernière question, mais je pense que tu as répondu en partie. Comment concilier les deux versets 26 et 28 si l'expression tout Israël sera sauvé fait allusion à Israël croyant et l'expression élection bien-aimée à cause des pères? La deuxième expression fait allusion à Israël de tous les siècles, soit c'est à Israël croyant exprimé au verset 26. Que dire alors d'Israël des siècles passés qui a rejeté le Messie alors qu'ils ont aussi les mêmes privilèges quant à l'élection à cause de leur père?
C'est une excellente question, mais je pense qu'elle met plus dans le texte que ce que le texte dit. Parce que si on regarde vraiment le verset 28, donc Israël qu'on parle, qui seront au bénéfice des bénédictions passées, c'est toujours le Israël du verset précédent, le verset 26, c'est-à-dire les Juifs croyants. Et ces Juifs croyants seront au bénéfice parce qu'ils sont des bien-aimés à cause des pères. Et cette phrase-là est aussi une phrase qui nous rassure qu'à travers les siècles, le peuple d'Israël va demeurer. Il ne disparaîtra jamais entièrement. Il va toujours rester un peuple ethnique pour qu'il y ait des générations, des générations et des générations qui nous amènent jusqu'à la 70e semaine de Daniel. Puis qu'est-ce qui se passe entre la génération qui a rejeté son Messie, hein, au début de notre âge et la génération qui va implorer le Messie de revenir? Eh bien, entre les deux, on a l'Église. Et donc, quand un Juif d'aujourd'hui, par la foi et la repentance, reconnaît en Jésus le Messie, il devient membre à part entière de l'Église, eh bien, ce sera le cas aussi dans la période de la tribulation, mais il ne fera pas partie de l'Église, mais fera partie de l'avenir d'Israël ethnique avec tous les autres Juifs croyants à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de contradiction entre 26 et 28. Le verset 28, en fait, met simplement La base, pourquoi il y aura un reste sauvé justement en Israël? C'est parce qu'ils sont des bien-aimés et des bénéficiaires des alliances faites avec leur père.
Super, merci beaucoup. On se retrouve à 21h06 pour la suite de l'exposé.